RMC. Buzzer time. Buzzer time.
Tony Parker, 16-year NBA vet. All of his tenure has been with the San Antonio Spurs. Won a couple of titles there, but now with the Hornets.
Les news NBA.
Allez, l'actu de la NBA. Alors, on est en pré-saison, hein. On est encore loin du début de saison. Mais enfin, on l'a vu dans un vrai match. Pas seulement sur des photos, pas seulement dans une opération promotionnelle ou dans la journée de la presse. Tony Parker a joué son premier match avec les Charlotte Hornets. 9 petites minutes, une passe décisive et donc ce maillot bleu turquoise sur les épaules. Est-ce que ça vous pique les yeux? La question qu'on veut vous poser, c'est combien de temps il va falloir pour vous y habituer? Et puis, quelle performance vous attendez pour, entre guillemets, accepter ce changement de tunique? Je te vois déjà bouillant, David.
Ça paraît irréel, hein, quand on le voit comme ça.
J'ai cru un photomontage quand j'ai vu la photo.
Ah oui, c'est impossible. Vraiment, sans exagérer. Quand j'ai vu ça, je me dis, tiens, je vais me réveiller en sueur au pied de mon lit. Il fait partie de ces très rares, parce qu'il y en a de moins en moins joueurs dont on a le sentiment qu'ils vont faire leur carrière dans un seul club. Et finalement, ce sera pas le cas. On a été tellement habitués pendant bientôt 20 ans à le voir en gris. Moi j'ai vraiment vraiment du mal à
c'est bizarre, en plus franchement il est moche ce maillot, on va pas se mentir.
C'est pas ça qui est le plus important, c'est le fait que c'est
une ère il aurait le maillot d'Enix ou des Lakers, ça serait mieux passé, je trouve.
Que LeBron joue avec ce maillot des Lakers, ça vous choque moins que Tipeee joue avec le maillot des Hornets?
C'est la grande classe, LeBron aux Lakers, c'est écrit, le meilleur joueur du monde, il doit jouer aux Lakers.
Mais ça n'a rien à voir, LeBron James, il a fait plusieurs clubs, déjà il a fait Cleveland, Miami, donc c'est pas ça. On parle d'un joueur qui a passé toute sa vie dans un même club, et que je le répète, il y en a eu quelques-uns avant, il y en a plus du tout.
Mais il le dit souvent, lui, il connaît la NBA que par le prisme des Spurs, donc c'est
toi, ça choque pas, toi, Stephen?
Ça m'a choqué le jour où il a annoncé son départ. Maintenant, je me suis fait à l'idée que c'était un joueur des Hornets. Après le voir sur le parquet avec un maillot d'Hornets, non, ça m'a fait ni chaud ni froid. Après, c'est un match de pré-saison. Il a pas vraiment joué. Il a joué 9 minutes. Les matchs de pré-saison pour les anciens en général, ça sert pas à grand chose.
Non, mais je suis pas sûr que ce soit le fait qu'il joue ou pas qui sont importants. C'est le fait qu'il ait changé de couleur.
Mais le problème, c'est que les Spurs qui ont voulu qu'il change de couleur. Si les Spurs avaient voulu
personne ne dit le contraire.
Tout le monde sait que Tony a subi la situation. Il n'empêche que vous verrez avec le temps, quand on prend de la hauteur, on prend aussi du recul, et vous verrez que pour tout le monde, c'était un joueur des Spurs, et il y aura même plein de gens qui ne se souviendront pas qu'il a joué à Charlotte. Qui se souvient que Michael Jordan a joué à Washington? Personne.
C'est le cas pour toutes les grandes stars qui ont mal fini. Patrick Ewing, on se souvient de Patrick Ewing au Knicks, mais Patrick Ewing, il a joué à Seattle. Voilà, il y a plein de joueurs. Scottie Pippen, c'est pas les Boules. Il a joué
dans sa carrière, ça ne représentera plus rien en fait.
Les gens se rappelleront que Parker, c'est l'espoir sa vie. Maintenant, lui, il a envie de jouer, il a envie de gambader.
De découvrir autre chose dans NBA aussi, mais ça peut s'entendre.
Il était excité aussi de découvrir une autre structure dans un autre club, comment ça fonctionne, le staff médical, une autre salle, des autres supporters, et ça aussi ça lui donne une petite excitation comme si c'était un rookie.
Parce que Tony il va de toute façon essayer de positiver au maximum, parce que comme il sait qu'il
suit la situation, il va se lever tous les matins en pleurant en disant là je suis
mais lui il a déjà tourné la page, de toute façon il a dit c'est un business.
Honnêtement, c'est plus facile de dire j'ai tourné la page que de le faire réellement, hein. Dans sa tête ça doit être quand même compliqué, et il l'a dit d'ailleurs lui-même après avoir joué. J'ai du mal
c'est le plus grand businessman, c'est un des plus grands businessmen français Tony Parker, donc il connaît très bien le milieu, il sait que ça fait partie du truc. Lui, s'il avait envie d'être en retraite pépère, il aurait fait 20 ans aux Spurs. C'est pas le cas, il a envie de jouer, il faut l'accepter.
Quelle performance, entre guillemets, on espère pour que ça passe mieux? Pour qu'on se dise, il a bien fait d'y aller, ça valait le coup, c'est super, c'est un défi de plus réussi dans sa carrière. Il faudrait quoi?
Playoff, 20 minutes de moyenne, 10 points par match.
Toi, ça te suffirait?
Moi, ça me suffirait.
Ça serait déjà pas mal quand même.
Hein. Ça me ferait amplement.
Non, mais après, je parle pas de ce qui est possible, parce que là, tu nous as donné un objectif raisonnable, en fait. Mais pour qu'on vraiment se dise,
en fait, je sais pas,
pour qu'il en reste une trace, un jour, je parle dans quelques années, il faudrait juste que Charlotte aille en finale NBA, ce qui n'arrivera jamais.
C'est impossible.
Donc il ne restera aucune trace, et c'est terrible.
Il peut pas jouer aucune trace de la conférence de
Tony Parker sera résumé au San Antonio Spurs à vie, qu'il arrive.
Mais même si Tony, ce qu'il ne fera pas non plus, attention, c'est juste parce que c'est le cours des choses, c'est normal, à l'âge qu'il a, etc., par rapport au fait qu'il va être remplaçant, etc. Même s'il mettait 20 points par match à Charlotte, et que Charlotte allait, on va dire, en finale de conférence, dans quelques années, personne ne s'en souviendra.
Je suis pas sûr, parce que nous tous ici, la conférence Est. Non, il a gagné en bas.
Ça serait fantastique, mais ça, c'est impossible.
On a tous ici. Qui est au-dessus aujourd'hui? Toronto?
Toronto, Boston, qui est très très fort, Philly, Philadelphie, qui est très costaud aussi. Mais on a tous ici autour de la table dit un jour, je peux en témoigner, que Tony Parker était cramé. Moi-même, je l'ai pensé sur sa fin de saison aux Spurs. S'il joue 20 minutes et qu'il met 10 points, ça serait une belle réponse déjà à tous les gens qui le voient cramé en fin de carrière, qui avance plus un cachou. Et je pense que ça.
Après,
aussi,
sans même pas.
Mais ça double tranchant aussi, parce que si il répond pas présent là, c'est là que ça risque d'être compliqué.
Ah oui, mais là, comme dit David, ça passera aux oubliettes comme Shaquille O'Neal et ses derniers contrats.
Après, quand on dit cramé, faut pas se tromper, Tony a aussi cette intelligence de basket supérieure qui fait qu'il sait très bien que depuis, on va dire quoi, 2 ans à peu près, il ne peut plus se reposer sur sa vitesse pour faire la différence, mais qu'il joue d'une autre façon. C'est déjà ce qu'il disait quand Pop l'a mis sur le banc. C'est-à-dire que maintenant, il fait jouer les autres, il va pas aller mettre des lay-up à la barbe des grands parce qu'il ne peut plus, mais il peut faire jouer les autres quand même. Et il a toujours sa place en NBA, c'est pas le problème. Le problème, c'est que ça choque de le voir dans une autre équipe et qu'on aurait tous préféré le voir jouer pendant 20 ans dans l'équipe des Spurs, lui le premier.
Alors toi, tu dis Boston, Philadelphie. J'ai juste
Toronto
une question et Toronto. Juste une question à vous poser. Là, si tu regardes l'effectif de Charlotte, bon, tu dis c'est impossible. Ils ont Kemba Walker qui est parmi les meilleurs meneurs. Et après Nico Batum et puis une bonne petite équipe, voilà.
Marvin Williams, Kaminsky, oui, c'est correct.
Il y a un joueur qui fait un peu parler de lui dans ses deux premiers matchs de pré-saison. Alors évidemment, on va pas s'enflammer parce que des matchs de pré-saison déjà c'est pas grand-chose. Deux matchs encore moins à l'échelle de la NBA, mais c'est le rookie Miles Bridges qui fait fantasmer un peu les supporters des Hornets. Est-ce que vous pouvez m'en dire un mot? Est-ce que ce fantasme est justifié, oui ou non?
Miles Bridges, c'est un joueur ultra athlétique, on a vu hein, sur le match de pré-saison.
Il a mis
des claquettes dunk assez athlétiques. C'est un mec qui vient de Michigan State, c'est un bon rookie. Maintenant, de là, on attend des monts et merveilles pour porter les Hornets jusque top 4 de l'Est. Ça me paraît un peu.
Mais ça fait partie dans la génération qui démarre là. Ça fait partie des joueurs qu'on attend ou c'est juste une bonne surprise?
Non, c'est un rookie qui est attendu à un bon niveau.
D'accord.
Quand t'es drafté de 12e choix, quand tu sors de Michigan State, t'as attendu. C'est à dire que t'es un rookie, on compte sur toi.
Il y a très peu de chances qu'il transfigure le visage de l'équipe, même à moyen terme, c'est-à-dire sur d'ici 2-3 saisons.
Si c'est ça possible. Peut arriver. Oui, c'est déjà arrivé des rookies qui transforment une équipe, mais pas être performant sur la première année. Mais c'est un bon joueur. Attention, hein. Je te dis pas que c'est une pipe en bois. Hein.
Tony Parker donc avec le maillot des Charlotte Hornets, est-ce que ça vous pique les yeux? On va évidemment continuer avec la Jeep Elite. Il y a un match en cours, c'est Bourg-Chalon, plus 8 pour l'instant pour Bourg-en-Bresse, à peine à la moitié du deuxième quart. Moi je suis désolé, je vais avoir du mal les gars, on va en reparler de Tipeee cette saison hein. Ce ouais, maillot je trouve affreux.
Ah maillot, ouais, toi aussi tu penses qu'il est cramé hein, à vous?
Non, moi mon rêve, je vous en ai
parlé. Je devrais mettre un micro à la rédac, vous êtes vraiment...
Mais honnêtement, moi je l'assume, non, hein. Moi je pense qu'il est un peu cramé Tipeee et ça serait...
Ouais, mais je sais que tu vas me le dire, mais lui il va pas me le dire en face avec ses lunettes là.
Non, moi mon fantasme, je vous en ai parlé toute la saison, c'était qu'il signe aux Lakers avec LeBron James. Et l'an dernier, souvenez-vous, jusqu'à tard dans la saison... Au risque d'en être ridicule, je vous ai dit attention les Spurs quand ils vont être à 100%, quand Tony a retrouvé son niveau, quand Kawhi va jouer. Donc vous pouvez pas m'accuser d'avoir pensé que Tipeee était cramé. Évidemment on sait que c'est plus le Tipeee de
qu'il est cramé,
quand il avait 25 ans. Bah j'en sais rien. Moi simplement j'ai envie d'y croire, tu sais pourquoi? Parce que dans l'une des interviews qu'il a donné de pré-saison, il a affirmé que l'an dernier n'a jamais retrouvé une condition physique acceptable. Et qu'il estime être beaucoup mieux aujourd'hui. On va voir. On sait jamais.
Très bien.
Est-ce qu'il se ment à lui-même? J'espère pas. Mais.
Non, il connaît son corps. Par contre, on peut dire ce qu'on veut, mais Tony connaît son corps.
Si on a juste un Tipeee qui est influent sur le jeu des Hornets et qui les fait gagner, d'une manière ou d'une autre, qui les fait progresser, déjà, je trouve ça cool.
Très bien. Eh ben, on suivra ça avec attention.
Mon cher Stephen, Frédéric et David. C'est pas souvent que je t'appelle Frédéric, j'ai vu.
Ça m'a surpris.
On va débattre de la Jeep Elite, donc, et des difficultés de Monaco, Strasbourg et Limoges. Est-ce que c'est inquiétant pour le niveau du championnat de France? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Buzzer Time. Pierre Dorian.
Buzzer Time tous les lundis soirs sur RMC. C'est votre rendez-vous de basket jusqu'à 22h avec la Dream Team, Stephen Brun, Frédéric Weiss et David Cosette. Je transpire un peu.
Ouais, rigole,
parce qu'il fait chaud dans ce studio. Et en plus, pendant les interruptions, Stephen, il me teste, il me pose des questions pour vérifier que je suis toujours au taquet sur l'actu basket.
Un jour, on va faire une émission où c'est moi qui vais préparer le quiz et tu vas participer.
Ah, je vais souffrir, non?
Qu'est-ce que t'en penses?
Faut faire des trucs simples.
Est-ce que tu penses qu'il sera capable de battre Fred?
Ah!
C'est ça ce que tu vas dire quand même.
Tout dépend du contenu du quiz.
Oui, même ma mère, elle bat Fred.
C'est vrai? Ça se tente.
Si tu mets trop de proies,
on le fera un jour. On demandera à Bixi, à Cyril Mejane.
Après, sur la pression, sur son manque de confiance en lui, je peux le déstabiliser très facilement.
C'est vrai.
Si je mène 2-0,
mais
par exemple.
Comment veux-tu que j'ai confiance en moi? Le boss à côté de moi, il me dit que je suis pas capable de le faire.
Je vous ai préparé une petite charade pour tout à l'heure, messieurs. Une petite charade qui est très longue.
Elle est facile.
On y va, on est parti sur la Jeep Elite.
On est parti.
Plus 7, Bourg-en-Bresse-Chalon. On est à 4 minutes de la mi-temps. Tiens, on va retourner à 3 pour la rencontre de Ligue 2 entre 3 et Auxerre. Lucien Denis.
Et on joue la 35e minute de cette première période avec pour l'instant l'avantage pour les Troyens. Ils l'ont pris la 12e par l'intermédiaire de Brian Mbeumo. Un bon centre côté droit de Kevin Fortuné. Le ballon coupé au premier poteau, ce qui permet pour l'instant aux Troyens de mener face à Auxerre sur le score d'un but à 0. Les Auxerrois qui ont beaucoup dominé en première période. Puisqu'ils ont obtenu 5 cornets à contre 1 pour les Troyens, mais pour l'instant, c'est 3 qui fait la bonne affaire, puisque 3 mènent devant Auxerre, 1 but à 0.
Vous connaissez l'anecdote sur Lucien Denis, quand même, monsieur?
Non.
Lulu?
Non, ah, là, c'est de la culture RMC, messieurs. Lucien Denis, correspondant à Auxerre. Depuis combien de temps, Lucien?
Ça va faire bientôt 20 ans.
45 ans.
Bientôt 20 ans.
Bah, Lucien Denis, donc ancien joueur professionnel de la JO Serre, vainqueur de la Coupe de France, j'ai pas de bêtises, Lucien.
Ah, finaliste seulement.
Finaliste de la Coupe de France.
Ce qui est déjà pas mal.
Ce qui est déjà pas mal. Doublure de Patrick Devers dans le film Coup de tête.
Mais arrête tes conneries.
Ah, c'est énorme, ça quand même.
Des points. C'est vrai, en plus.
Ah oui,
c'était une belle aventure, on s'est bien amusé.
Ça, c'est quand même énorme.
Pourquoi doublure de Patrick Devers? Il disait, les cascades, tu disais pas
qu'il est capable de jouer au foot, Patrick Devers.
Ah, d'accord, c'est non, incapable. J'ai déjà rarement vu quelqu'un aussi mauvais qu'un ballon.
Incroyable. Ah ouais. Pas coup de tête.
C'est
mythique, ce film.
Par contre, on a perdu tous les auditeurs de moins de 30 ans.
Tu rigoles, quoi, c'est de la culture.
C'est le problème de Stephen, il est un peu monoculture.
C'est-à-dire, tu peux lui parler de Space Jam à la limite, mais c'est tout, quoi.
Ouais. Ouais, Space Jam, bon, ça a plus de 30 ans.
Oui, mais d'accord. Mais
ah oui, ça commence à noter maintenant.
Donc 1-0 pour 3 face à Auxerre. Face à Auxerre, pardon, la Jeep Elite, c'est maintenant.
RMC. Buzzer Time. Buzzer Time.
Qu'est-ce qu'il va?
Les news Jeep Elite.
Trois des clubs favoris pour le titre sont en difficulté après 3 journées. Donc évidemment, on va pas tirer de grands enseignements, mais c'est quand même notable. Monaco, Strasbourg et Limoges. Est-ce que vous trouvez ça inquiétant pour le niveau du championnat de France? Monaco battu à Boulazac, 16 points d'écart. Strasbourg battu au Portel, puis à domicile par Paula Cortez. Limoges battu à domicile par Gravelines Dunkerque, puis au Portel. Alors après, on peut se dire que gagner au Portel, c'est jamais facile, mais vous avez déjà démonté cette thèse en préparant l'émission.
C'est pas inquiétant du tout, déjà parce que c'est le championnat de France qui est comme ça chaque année, en un, et en deux, parce que c'est le début de la saison seulement. Je pense que les garçons seront d'accord avec moi. Il y a deux choses différentes pour moi. D'un côté, il y a Strasbourg et Monaco, pour différentes raisons, qui sont loin d'être au complet. Donc c'est pas évident. En plus, gros renouvellement, notamment pour Strasbourg. Alors pour Limoges, pour moi, c'est complètement différent. C'est que si ils défendent comme ça toute la saison, leurs adversaires vont bien se marrer et eux, ils vont pas aller très très loin.
Quelque chose à dire pour défendre ton club, Fred?
C'est pas mon club du tout.
Non, c'est un peu ton club.
Oui, ça a été mon club, mais bon, voilà, on est tous passés par les clubs.
Assumer, mais Fred, t'as quand même une affinité particulière avec Limoges.
La seule chose que j'ai comme affinité, c'est que j'habite là-bas. Effectivement.
Bah, non, tu peux pas, en ayant joué autant d'années.
J'ai aimé, mon affinité et le club que j'ai aimé.
C'est Bilbao?
C'était Limoges quand j'y jouais. Mais tout a changé. Plus rien n'est pareil. Et c'est un autre club. Bah, c'est un autre club. C'est que je respecte tout à fait. Comme tous les clubs de JP,
c'est pas un autre club. C'est le même club, Fred.
Qui a évolué.
Mais oui, mais c'est la même évolution. Qui est pas tout à fait la même.
Est-ce que tu as quelque chose à dire pour contrer David ou pas?
Non, je suis assez d'accord, mais c'est vrai. Mais j'ajouterais juste que du côté de Monaco, en plus le coach a changé, et donc il faut le temps de se mettre en place. Apparemment, il demande beaucoup de choses. Il est très précis dans ce qu'il veut exactement, donc le temps qu'il se mette en place. Et du côté de Strasbourg, il y a aussi la tuile d'avoir perdu Youssouf Afal, qui est quand même un des joueurs annoncés comme possible MVP de la saison. Et le perdre dès le début du championnat comme ça, ça peut poser une vraie problématique, surtout quand on n'est pas en complet.
Et il en manque un joueur, puisqu'il tourne qu'à 8, il manque un ailier fort.
Je suis pas inquiet pour Monaco, qui va avoir les moyens de se rétablir. Je suis vraiment pas inquiet pour Strasbourg. Moi, c'est Limoges qui m'inquiète un petit peu. L'équipe est belle. Sur papier, tout est magnifique, tout est beau. Mais ça manque de soldats et il y a que des mecs qui veulent briller.
Ça manque d'un Stephen Brun, quoi.
Non.
Ah non, justement. Il y a trop de Stephen Brun, Pierre.
Non, il y a des mêmes meilleurs que Stephen Brun, mais il y a pas de mec de porteur d'eau capable de sacrifier pour faire des choses qui ne sont pas sur la ligne de stage.
Ah, Jean-Fred Morency, par exemple.
Ou un Brian Conklin, des mecs qui sont un peu besogneux. Là, et Kyle Meeling n'a pas l'habitude d'avoir ce genre d'équipe-là avec 10 joueurs super forts. Et surtout, il y a un souci déjà avec Samardo Samuel qui est référencé le meilleur joueur de l'équipe, le plus beau CV, qui est revenu avec un contrat de 2 ans, qui a insulté le coach au portel et qui est suspendu et va vraisemblablement être licencié du club. Donc il y a un vrai problème, mais c'est pas un mauvais signe, parce que s'il y a pas de problème à Limoges, c'est que tout va mal. À Limoges, on est connu pour avoir des saisons un peu mouvementées, donc c'est la tradition.
On appelle ça Dallas sur Vienne là-bas.
Donc ouais. Monaco, Strasbourg, vous n'êtes pas inquiet. Un peu plus pour Limoges. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce que c'est inquiétant pour le niveau du championnat de France?
Il y a que trois journées qui sont passées hein, également. Donc c'est un peu tôt pour s'inquiéter.
Et en plus, si on était à la moitié du championnat, ce serait inquiétant.
C'est le contraire, non, Fred? C'est pas que c'est inquiétant, c'est que c'est super pour le championnat de France.
Ça rassure, toi.
Ça veut dire que les autres clubs sont forts.
Ça veut dire que les super clubs sont pas bons pour le moment, et que les clubs mauvais, et ben ils arrivent à accrocher des super clubs.
Sur dans les pays différents, comme en Espagne, comme en Turquie, il y a des très gros clubs qui dominent les championnats à chaque fois. Et ça leur permet d'avoir
chaque une année, c'est pareil.
Voilà, c'est toujours les mêmes clubs.
Le 18e champion espagnol, jamais il tape le Real Madrid.
Regarde en première ligue en foot.
Non mais ça arrive, mais beaucoup moins fréquemment que chez nous finalement.
En première ligue en foot, les gros clubs sont toujours là, et quand ils sont moins bons, ils dégringolent. Quand Manchester United est moins bon, ils sont 10e tout d'un coup, quoi. Ça, c'est un championnat qui a un niveau globalement élevé.
En Espagne, le championnat espagnol au foot, il est pareil. Le Real, le Barça, quand ils sont moins bien, ils descendent pas en dessous de la 3e ou la 4e place.
Attention, parce que la Jeep Elite, on sait que ce n'est pas le meilleur niveau européen, malgré tout. Ça reste quand même un championnat professionnel de très haut niveau.
Justement, comment tu veux bien figurer à l'étranger en étant moins
dans un championnat moyen? Difficile.
Bah déjà qu'il y a que 3 matchs de jouer et que effectivement, c'est pas positif pour la Jeep Elite si ça continue comme ça.
Pour toi, c'est pas positif.
On revient au même problème qu'après le locomotive.
C'est bien aussi, hein.
Non, l'incertitude, c'est beau pour le spectacle. Mais
on a eu 2 derniers champions quand même.
T'as besoin d'avoir des équipes fortes et des clubs forts.
Il n'y a pas d'écart entre le dernier et le premier. Le Real Madrid basket, il leur manque un ou deux joueurs. Il plie une équipe moyenne. Pareil, le Barça.
Strasbourg, il manque fin.
Il n'y a pas tant de différence. Il n'y a pas de clubs à 15, 20 millions de budget qui peuvent se priver de deux joueurs et jouer avec le reste et taper les autres équipes. Ça n'existe pas chez nous. C'est notre force et notre faiblesse.
Ouais, je suis pas tout à fait d'accord parce que Barcelone, ils ont connu une année abominable où ils n'ont pas fait les playoffs. Donc il y a quand même un paquet d'équipes.
Une fois sur 20 ans.
Et ils ont fait des années aussi merdiques.
Où
ils se sont qualifiés in extremis, ils ont perdu au premier tour des playoffs. C'est déjà arrivé à Barcelone de perdre au premier tour des playoffs du championnat.
Tu sais qu'en Espagne, il y a une chanson qui dit Estamos hasta los huevos del Barça de Madrid. Parce qu'on a plein de dos de voir Barça et Madrid tout le temps en finale. C'est la chanson dans tous les stades de basket.
Après le championnat espagnol, il y a au moins 5 clubs qui peuvent y
aller. Oui, mais maintenant, il y a 5 énormes clubs.
Valence, Real, Barça.
Sauf que. Mais. En dessous, c'est un peu, c'est un ton.
Oui, j'entends. Et d'ailleurs, quand on dit Barcelone et Real, de mémoire, il y a juste un peu plus d'un an, le champion d'Espagne, c'était ni Real ni Barça, c'est Valence.
C'est Valence. Mais, oui, mais qui est une énorme équipe aussi.
J'entends.
Valence.
Ce que je voulais dire juste, c'est pas le même niveau que l'Espagne, c'est que le niveau global du championnat de France, on en a parlé lundi dernier, s'est amélioré avec l'arrivée de joueurs. On en a parlé il y a une semaine. J'entends. Mais n'empêche que le championnat est un peu plus sexy cette année que l'année dernière, il y a 2 ans,
avec
des gros
joueurs venant de
et que donc il y a plus d'outsiders. C'est pour ça que ces clubs référencés, les 3 qu'on a cités, faut pas oublier l'Asvel qui eux pour le coup ont été séduisants ce week-end, c'est pour ça que ces clubs là peuvent être un peu plus en difficulté, parce que la marge elle est pas si énorme que ça.
J'ai une question pour David. Toi, tu préférerais être commentateur du championnat espagnol et avoir toujours les 4 têtes d'affiche, ou commenter la Jeep Elite avec du suspense et pas savoir qui sera champion à la fin de l'année?
Moi, personnellement, pour m'éclater et donc pour essayer de faire partager ma passion aux gens qui suivent les matchs, je préfère avoir des matchs qui se tiennent tout le temps. Et quand c'est toujours les mêmes équipes, au bout d'un moment, tu vas finir par un peu raconter toujours la même limonade, risque de radoter, etc. Après, on parle de choses différentes. Ça, c'est pour le plaisir du commentateur et de faire partager sa passion. Si tu parles de l'intérêt de ton championnat et de ton sport, on est bien d'accord qu'il faut mieux avoir des grosses locomotives, parce qu'on sait que c'est seulement comme ça que nous, Français, on pourra exister en Europe, et que c'est comme ça qu'on pourra sortir de notre microcosme d'amateur de basket et intéresser le grand public.
Tiens, juste un mot, on arrive à la mi-temps de Bourg-en-Bresse, Chalon. Il y a désormais plus 10 pour Bourg. Quand tu parles d'incertitude et de faible écart entre les formations, je vous avais déjà posé la question l'année dernière, mais Zach Peacock est peut-être le meilleur joueur, l'un des meilleurs en tout cas de ces 2 dernières saisons. Il est toujours à Bourg-en-Bresse. Il y a pas une grosse écurie qui est allée le chercher.
Si, il y avait plein de contacts, sauf qu'il lui restait un an de contrat.
Et que
le buyout, moi, j'ai parlé avec lui au Media Day, il m'expliquait, le buyout était trop cher. Bourg-en-Bresse demandait trop d'argent pour le rachat de son année de contrat et que si le club payait son année de contrat, ça allait se répercuter sur son propre salaire. Il allait gagner moins d'argent. Donc, il se retrouve à Bourg-en-Bresse.
Mais ce qui veut dire que Bourg-en-Bresse, a les épaules assez solides pour résister financièrement.
Chaque fois, le MVP s'en va.
Ou à Monaco. C'est ça que ça veut dire.
Oui, ça veut dire que Bourg-en-Bresse est un outsider crédible. En plus, ils ont signé Zach Wright, qui est aussi un autre joueur référencé. Ils ont constitué une belle équipe. Voilà, ça fait partie de ces équipes qui avant étaient quand même beaucoup plus faibles et qui montent tous d'un cran.
Plus 10 à la mi-temps pour Bourg face à Chalon et toujours 1-0 à quelques secondes de la mi-temps entre Troyes et Auxerre. L'actu du basket français dans le 1 contre 1 contre 1 depuis l'arrivée de David Cosette. C'est tout de suite sur RMC dans Buzzer Time.
RMC, Buzzer Time, Pierre Dorian.
Avec David Cosette, Frédéric Veil, Stephen Brun, c'est l'actu du basket français, tout de suite sur RMC.
RMC, Buzzer Time, Buzzer Time. Le 1 contre 1 contre 1 contre 1.
Excellent. Ça c'est bon. C'est très
bon. Bon, on va pas y aller par quatre chemins. Il y a plus 10 donc pour Bourg à la mi-temps du match entre Bourg-en-Bresse et Chalon et 1-0 pour 3 face à Auxerre. On enchaîne tout de suite. C'est un mélange de Jeep Elite, de championnat du monde féminin et de NBA.
Parfait. Voilà.
Il y aura pas de Pro B aujourd'hui.
Stephen Brun, il fera pas à nouveau du moudin comme la semaine dernière.
Ça, on peut jamais savoir. On peut jamais être sûr.
C'est ça la surprise avec moi.
Allez, on démarre avec les Américaines championnes du monde. Dans l'équipe américaine, il y a deux filles qui sont quadruples championnes olympiques.
Diana Stewart
et
Diana Taurasi.
C'est pour David Cosette. J'ai rien compris au début, mais j'ai senti que c'était bon.
Ah, donc t'as rien compris, tu valides.
Non, parce qu'après il répète, c'est bon, c'est gagné. Non, mais là, franchement, tu vas pas.
Ça, il fait jamais son mauvais joueur.
Ouais,
c'est incroyable, ça.
Y a pas photo, là.
Y a pas photo. Charade pour continuer en beauté. Charade très longue, attention, faut se concentrer. Ça peut aller vite. Parce que, voilà, je vous en dis pas plus, ça peut aller vite. Mon premier est la moitié d'un livre de Tolstoï.
Hein?
Mon second est le prénom du plus célèbre champion de halfpipe. Vous connaissez le halfpipe un peu?
C'est du surf sur les studios et tout ça, là.
Mon troisième est un oui pour Angela Merkel. Mon quatrième.
Moufiarou.
Sort directement de la vache.
Les.
Mon cinquième est la caractéristique d'un taureau célèbre sur un paquet de riz.
Et les
la vache qui rit.
Et mon tout a donné la victoire.
Valérie Garnier.
Au Boston Celtics.
Valérie.
Gershon Yabusele.
Hier. Gershon Yabusele. Bravo Stephen Brun.
Je suis une machine alors que l'autre à ma droite il note tout.
Alors, je tiens à préciser pour tous ceux qui nous écoutent que s'il a trouvé Stephen Brun Gershon Yabusele, c'est juste parce qu'il a dû voir la fin du match, mais je peux vous assurer qu'il savait pas que Tolstoï avait écrit Guerre et paix. Franchement.
Tout à fait.
Bon, la moitié du livre de Tolstoï c'était Guerre.
Il va demander quel poste il joue Tolstoï.
Tolstoï, fameux écrivain russe.
Ouais. Trompette.
Du CSKA Moscou.
CSKA Moscou.
Sean White, le champion de Half-Five. Gershon, ok.
Sean White, bien sûr.
Le oui pour Angela Merkel. Bien sûr.
C'est terrible parce que je l'avais.
Et le ya, ça aurait pu déclencher.
Et j'ai mis White au lieu de Sean.
Sinon, Gershon, je l'avais. Gare White, qui a bousé. Bref, le taureau ailé, bien entendu. Bien et sûr. La bouse, hein. La bouse pour toujours à l'instant scato de.
T'avais dit prénom de Sean White?
Oui. Mon second est le prénom du plus célèbre champion de la.
J'étais bon dès le prénom, j'étais bon.
Donc ça fait un point pour David, un point.
Fred est parti pour le faire. Un contre un contre un.
Puisqu'on était sur Charlotte, je vais vous faire les questions à thème. Donc je vous rappelle le principe, il y a deux points en jeu. Il y a un thème. Chacun répond à cinq questions à propos de ce thème et celui qui gagne, enfin qui répond à le plus de questions gagne deux points. Le thème c'est Nicolas Batum. Alors vous avez trois questionnaires, Nicolas Batum en Pro A, Nicolas Batum en NBA. Nicolas Batum en équipe de France.
Qui commence?
Fred, tu n'as pas de points, tu choisis ton quiz.
Oh, c'est affreux.
Allez, dépêche-toi parce que
équipe de France, équipe de France.
Allez, équipe de France.
Il a pris le plus dur, je crois.
Cinq questions.
Vous m'avez trop stressé. Alors,
son nombre de sélections, ça
on démarre facile.
Ça,
quel est le nombre de sélections?
C'est impossible.
À cinq près. Je te dis franchement, c'est assez équilibré sur la difficulté des trois quiz.
Pour Fred Weiss,
ça est dur.
C'est énorme.
Près, à cinq près.
75?
Non, c'est 131.
Plus que ça, beaucoup plus.
Ensuite, combien de médailles d'or avec l'équipe de France?
Une.
Voilà, tu vois.
Ça, c'était pas rare.
L'Euro 2013.
L'Euro 2013. Hein.
Combien de médailles d'or avec les équipes de France jeunes?
Cumulées ou juste jeunes?
Jeunes. On compte pas l'Euro 2013. Les jeunes.
Une.
Deux, il y a l'Euro 2016, l'Euro moins de 16 et l'Euro moins de 18. Qui fut son premier coach en équipe de France? Question très intéressante. Ah bah réfléchis. Tu veux regarder avec tes yeux de Merlan Free. Bah dis quelque chose, tu reconnais des coachs de
l'équipe. L'équipe de France, France. A?
Oui.
Michel Gomez?
Vincent Collet.
Ah c'était déjà un
Vincent Collet. Belle, celle-là.
Je pensais que c'était avant.
Eh oui. Il est jeune, hein, Batou. Ah oui. On ne se souvient plus qui est ici.
Bon, là, c'est Boulard, Vincent Collet.
Et enfin,
coach,
la seule médaille d'or avec l'équipe de France pour Nico gagnée à Ljubljana. C'est dans quel pays, Ljubljana?
C'est une vraie question, ça?
Slovénie?
Ah, quand même, ça m'a fait peur. Deux bonnes réponses.
Non, mais je sais pas si t'es, je pensais pas que c'était la question, en fait.
David, Batoum en pro ou David, ou Batoum en NBA?
Batoum en pro.
Ah ouais, forcément. Moi, j'ai
laissé Batoum en NBA à Stephen.
Allez, combien de saisons en pro?
Combien de saisons en pro A?
Ouais, Nico Batum.
Pas facile.
En pro, donc il a dû jouer quelques matchs au Mans. Si je trouve, je suis vraiment un killer. Il a joué au Mans. Non, si, je dirais...
Le mec,
je dirais 5 ou 6.
Eh ben, c'est 4. Une bonne réponse. 3 au Mans, 1 à Nancy.
T'avais sa toute première saison où il a joué 2 minutes sur un match?
Bien sûr. Combien de titres de champion de France?
Combien de titres de champion de France?
Nicolas Batum.
Est-ce qu'en 2006 il fait partie de l'effectif? Non, je ne crois pas. Je serais tenté de dire zéro.
Eh ben, en 2006 il fait partie de l'effectif. Donc un titre. Son centre de formation à Nicolas Batum.
Le MSB,
c'est bon.
Bon.
Qui était son premier coach en pro A?
Vincent Collet,
c'est bon. Nicolas Batum est né à Lisieux. C'est dans quel département, Lisieux?
Calvados, 14.
C'est fait 3 réponses. Fred Weiss déjà éclaté sur le côté. Nicolas Batum en NBA.
Moi, je vais prendre Nicolas Batum en NBA.
Pour Stephen Brun, combien de saisons NBA sans compter celle qui commence? Puisqu'elle n'est pas commencée.
Sans compter, alors je crois... 6 à Portland, 4 à Charlotte, 10.
Alors t'es un vrai escroc parce que la bonne réponse c'est 10, mais c'est 7 à Portland 7 et 3 à Charlotte. T'as quand même
Ah ouais.
Il y a la chatte à Dédé, mais il y a la réussite de Stephen quand même. Combien de titres de champion NBA?
Combien de titres de champion NBA, Nico Batum? 0.
T'es pas tombé dans le panneau, c'est bien. Quelle franchise l'a drafté, Nico Batum?
Quelle franchise a drafté? Alors je crois qu'il y a un piège, il est pas drafté par Portland, il est drafté par les Rockets de Houston.
Excellent, Stephen, troisième bonne réponse. Qui fut son premier coach en NBA?
Alors c'est Vincent Collet, alors j'arrête tout de suite.
Son premier coach en NBA, c'est un coach qui a joué en France, je vais dire Terry Stotts.
C'est Nate McMillan. La première franchise NBA, donc sa première franchise NBA, Portland, c'est dans quel état aux États-Unis?
Oregon.
Et c'est bon pour Stephen, quatre bonnes réponses. Et les deux points qui vont avec, bravo Steve. Excellent.
Merci Pierrot.
Après, bon, c'est vrai que t'as été servi par le quiz NBA qui te sied à merveille. Bravo.
Ça nous sied tellement pas que...
3 points pour Steve, 1 point pour David, 0 pour Fred. On enchaîne. Qui a déclaré « Je suis très, très déçu ». C'est pour cela que j'ai souhaité parler à l'équipe samedi. Jean-Pierre Suta.
Après la défaite. J'ai lu des trucs aussi.
C'est quoi, je l'ai même pas lu ça.
Contre la Belgique.
Non mais moi c'était écrit où?
C'était écrit sur Bibasket.
En quart de finale de la Coupe du Monde. Alors, est-ce qu'il y a débat? Est-ce qu'on parle d'échec absolu sur l'équipe de France ou il n'y a pas débat?
Il n'y a pas de débat. Ils ont annoncé haut et fort qu'ils voulaient une médaille. Jacky Commer leur a dit on est troisième nation. Ils
ont
des
questions. C'est quand même la deuxième performance de l'histoire.
Je m'en ai rien à carrer.
Non mais d'accord, mais c'est quand même la deuxième performance de l'histoire. Il y avait une médaille en 53.
Pour moi, c'est échec.
Trois questions du coup, il est plein d'adrénaline le mec. Il commence à mal parler et tout.
Échec absolu, ça me semble dur. Échec, oui.
Échec absolu.
Échec, aucun doute. Mais tu relativises l'échec quand même. Cinquième place.
Échec absolu. On joue la Belgique, le meilleur tableau possible. En quart de finale, on se fait gifler
parce qu'on se fait dessus. C'est après le match de la Belgique.
Échec mental, échec au niveau préparation, c'est catastrophique.
La Belgique est une vraie belle équipe qui a embêté les États-Unis pendant une mi-temps. Après, bien sûr qu'il y a un problème mental, bien sûr que l'équipe était jeune et que ça manquait un peu de leader pour faire marcher tout ça à la baguette, comme c'était le cas quand il y avait Céline Dumerc. Ça reste un échec, on est d'accord. Échec, comment t'as dit, échec quoi?
Échec absolu.
Échec absolu, ça me paraît un peu fort. On s'en fiche.
On annonce haut et fort médaille, on n'a pas de médaille.
Je suis d'accord.
On est d'accord. Alors on reste sur la Coupe du Monde féminine. On va faire des enchères. C'est Fred qui propose en premier. Combien de joueuses du 5 majeur de la Coupe du Monde es-tu capable de me citer, Frédéric? Une quand même dit un. De toute façon ils vont enchérir. Un. David.
Combien de joueuses je peux citer
du 5 majeur?
3.
5.
Allez, vas-y. Sans te tromper, hein. Ouais. Sans te tromper une fois, vas-y.
La Belge, Emma Misman.
C'est ouais. Bon.
Zana Taurasi.
C'est bon.
Brianna Stewart.
C'est bon.
Astu Endur, l'Espagnol.
Excellent.
Et Liz Cambage.
Excellent, l'Australienne. Bravo, ça fait un point de plus, Stephen.
Merci, Pierrot.
Point pour Stephen, un point pour
Fred.
Et David.
Ah, ça, j'avais pas tout en tête.
Allez, retour à la proie. On en est qu'à la troisième journée. On va quand même jeter un œil sur les stats. Parce que je profite qu'on soit qu'à la troisième journée parce qu'après ça bouge plus
oui,
trop. Hein.
C'est vrai. Il y a des petites surprises.
Par expérience, l'année dernière, j'ai galéré pour vous poser des questions sur les stats. Donc, sur les stats individuelles, on parle évidemment points par match, passe, rebond, contre, interception, trois points, lancé.
C'est pas le même joueur qu'à
tout ça. Et évaluation. Ça, c'est toutes les stats dont on parle.
Ah d'accord. Ok. D'accord.
Bon, il y a un joueur qui est en tête dans deux catégories. Et un seul.
Devin Ebanks.
Excellent, Fred. Devin Ebanks de Chalon-Reims, qui
meilleur
est en tête.
Marqueur et
24 points de moyenne sur deux matchs disputés.
Meilleur shooter à 3 points.
Et réussite à 3 points. Il y a 62,5 garçons quand même. Bon, sur deux matchs, mais.
C'est gros joueur quand même.
Dis-nous un mot de Devin Ebanks.
Devin Ebanks, c'est un mec qui a joué aux Lakers, mais à la grande époque des Lakers avec Kobe et Pau Gasol. Alors c'était pas un joueur majeur, mais il a joué en playoff dans des matchs importants. L'année dernière, il était en deuxième division italienne. Il a tout arraché en deuxième division italienne. Je crois que c'était 24 points de moyenne par là. Et c'est un fort, fort scoreur qui aime bien le ballon. Et avec Cédric Heiss, le coach de Chalon-Reims, il est très bien exploité pour ça.
Alors, une dernière question, me dit. Deux dernières, allez. Très vite. Deux dernières pour voir si on peut challenger Stephen. Une déclaration, vous me trouvez l'auteur. Qui a déclaré, on doit être meilleur. On est dans le dur, il faut qu'on bosse.
Vincent Collet,
allez. Il a réglé l'affaire, mais en deux secondes, quoi. Qu'est-ce que t'as dit,
Traoré,
au hasard?
Ouais, ça passait, ouais, ça passait.
En plus, il y en a deux aussi dans le championnat, donc c'est jamais, ça passe bien.
Bravo, Stephen, tu gardes ta ceinture de champion.
Champion contre un
contre un. Contre un contre?
Contre un contre.
J'aime beaucoup le nouveau jingle, hein. Surtout que ça a été commandé à l'arrache,
ouais,
à 10 minutes de l'antenne.
J'ai vu Cyril Méjean passer à la
fin. Faut féliciter quelqu'un, là. Je sais pas qui, mais je félicite quand même. C'est Quentin qu'on félicite. Bravo, Quentin.
Bravo, Quentin.
Ça reprend tout juste entre Bourg-en-Bresse et Chalon, plus 10 à la mi-temps, et c'est toujours la mi-temps entre 3 et Auxerre, 1 but à 0 pour 3. Et tout de suite, nos infos exclusives, c'est Buzzer Time et c'est le moment Cyril Méjean qui va vous donner des infos sur le Real Madrid et son envie de jouer en NBA. Est-ce que c'est un fantasme ou est-ce que ça peut être un jour la réalité? Restez bien avec nous sur RMC, à tout de suite.
RMC, 21h-22h, Buzzer Time, Pierre Dorian.
Avec Stephen Brun, Frédéric Weiss et David Cosette, la deuxième mi-temps vient de repartir. Bourg-en-Bresse-Chalon, 54-45, donc plus 9 pour les locaux. Et puis ça vient de repartir également entre 3 et Auxerre. Deuxième mi-temps, 1 but à 0 pour 3. Tout de suite, des infos, encore des infos.
RMC. Buzzer Time.
On fout ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Mais moi je préfère perdre en se battant.
Locker Room.
Buzzer Time, Locker Room. Bon, ça fait ok, ça fait un peu trop de mots,
c'est
en anglais.
Cas, hein.
Surtout pour comprendre que c'est la séquence info de l'émission. Ça devient un peu tiré par les cheveux, je vous avoue. Je viens de me rendre compte en entendant le jingle. Peu importe ce qui compte, c'est
les infos. On appelle ça les coulisses.
Cyril Méjean
le
vous
vestiaire.
Ramène. Toutes
le
les
mec
semaines.
Mais il a mis l'accent sur coulisses, c'est des coulisses.
Il a raison.
Coulisses.
Ouais, c'est American. Coulisses avec un accent américain parce que parfois il a des interlocuteurs américains. Cyril Méjean, il nous a prouvé.
Là, c'est espagnol dernière. Aujourd'hui.
C'est espagnol.
Alors, voilà, c'est sujet.
Lui. Bonsoir, messieurs.
Hyper intéressant.
Hola.
Pour un non spécialiste comme moi, voilà, genre d'info qui peut faire fantasmer. Le Real Madrid aurait demandé une place dans la conférence S de la NBA. Alors, est-ce que c'est du délire absolu ou est-ce qu'il y a un fond de réalité? Tu as enquêté, Cyril, et tu vas nous donner des infos.
Alors, la première chose, c'est une déclaration de Florentino Pérez, donc le président du Real Madrid, dans une réunion privée avec des socios. Ça a été repris par un journal espagnol. C'est une vraie déclaration qui a été reprise, donc, selon un site espagnol. La NBA veut créer une confédération européenne, mais le Real Madrid est le seul club à vouloir y entrer, a confié donc le président. Je leur ai demandé de nous inclure dans la conférence Est. Pour le moment, c'est non, mais ce n'est pas exclu. Alors après, quand on fouille, quand on appelle, pourquoi tu rigoles déjà?
Laisse-le défiler ces infos.
Bien sûr, Pierre.
Parce que c'est pas un guignol, même si on dirait parfois. Il y a des vraies infos.
Merci. Hein. Et donc, quand on fouille et quand on farfouille auprès du Real Madrid avec différentes sources qu'on a pu avoir sur place, en fait, le président Florentino Pérez a rencontré Adam Silver, donc le boss de la NBA, il y a maintenant 2 ans. Depuis, ils n'ont pas discuté. Donc ce n'est pas du tout d'actualité. Et surtout, en fait, c'est une manière...
Il y a deux ans, il lui avait dit, je suis candidat pour une place dans la conférence.
Voilà, ils en avaient parlé, mais à l'époque, déjà, Adam Silver avait dit, attention, il y a quand même le problème de la logistique avec les déplacements, il y a le problème du budget, parce que le budget du Real Madrid, c'est environ 47 millions, pratiquement 50 millions, alors que le salary cap en NBA, on est à 107 millions pour cette année. Donc voilà, il y a plein de petits soucis qui vont poser, qui vont être compliqués.
Des soucis de 70 millions.
Voilà, par exemple, après, ils peuvent, après, tu peux trouver de l'argent, parce que tu vas avoir des joueurs qui vont venir par le budget de la NBA. Mais surtout, en fait, d'après nos informations, c'est juste vouloir mettre la pression, donc le président du Real Madrid veut mettre la pression sur la Liga ACB, sur les dirigeants espagnols pour montrer qu'il est le meilleur, que c'est lui qui a le pouvoir sur le basket en Espagne. Dans l'absolu, il n'y croit absolument pas. À l'Euroleague, non, il en fait partie. Après, mais il n'y croit absolument pas.
Après le Real, ils sont dans un délire de, avec tous les grands, là, le CSKA et compagnie, de faire une sorte de ligue fermée, de sortir, peut-être du championnat espagnol. Ils sont un petit peu en guerre, hein, tous les grands clubs, le Real, le Barça, avec la Ligue Endesa.
Et c'est ce qu'ils voulaient déjà faire, rappelez-vous, il y a quelques années, dans le foot. Ils voulaient créer une Super League avec les grands clubs professionnels d'Europe au niveau foot. Et ils envisagent, pourquoi pas, de faire la même chose.
La différence, c'est que dans le basket, déjà, une ligue privée, très influente existe déjà. Donc, c'est faisable. C'est possible, et qu'en foot, la puissance des organismes organisateurs est telle que ça semble aujourd'hui totalement impossible de sortir du système UEFA.
La ligue privée existe, effectivement, au niveau de l'Euroleague, mais on continue à jouer dans le championnat domestique.
Oui.
Sauf que là, ce serait complètement sortir de ce système-là.
Il y a quelques années, les premières intentions de créer une Euroleague privée, ça semblait impossible il y a quelques années. Or, ils l'ont fait, très bien fait, avec un succès commercial.
FIBA a donné les clés en disant faites-nous un truc bien, et ils sont
à l'époque.
À l'époque. Donc après, maintenant, il y a un retour en arrière, mais à l'époque, c'est ce qui s'est passé.
Et après, sur le sportif, moi, si on parle du sportif, je te dis très honnêtement, l'équipe du Real Madrid, l'année dernière, ou même celle qu'il va y avoir cette année, elle n'est pas dernière du championnat NBA, je te le dis tout de suite. Il y a des équipes qui sont moins fortes.
Ouais, après, il faut aussi être capable de s'adapter au rythme des matchs.
Ah oui, ça c'est plus compliqué, en termes de décalage horaire, de voyage et
même
compagnie.
Jouer tous les 3 jours, etc.
Au minimum, t'as 6-10 heures d'avion à chaque fois.
C'est un fantasme des garçons depuis longtemps.
Oui, depuis très longtemps.
Qui n'aura jamais lieu.
Tu penses?
Non. On aura tous ici autour de la table, on aura déjà rejoint Charles Aznavour que peut-être ça se fera un jour. C'est pas possible. Ah ouais. Ça ne peut. Et David Stern, l'ancien commissionneur, l'ancien grand patron de la NBA, on a parlé pendant des années. Il avait ce fantasme-là. Et après, ils ont été face à la carte de l'Europe et ils se sont dit ça marche pas. Le seul endroit qui était bien pour eux, c'est Londres. Le problème, c'est qu'il y a zéro culture basket. Là, il y a une salle, mais il y a zéro culture basket. Ça n'intéresse personne.
Londres ou Madrid.
Les gens iront pas le voir.
Il y a quand même 25 000 à chaque fois qu'il y a un match NBA à l'O2 Arena.
Attends, David, quelle est la différence géographique entre Londres et Madrid? C'est une différence. Pourquoi tu dis qu'il y a qu'à Londres que ce serait possible?
Alors, ce serait possible
en termes de culture anglo-saxonne ou quoi?
Exactement, parce qu'ils ont vu que allez déjà en Euroleague. Nous, quand on va en Euroleague dans plein de pays, on se rend compte que tout est différent. Tout est différent. Il pourrait jamais monter un club de NBA en Turquie, en Russie, etc. Parce qu'il y a des particularismes culturels qui font qu'il y aurait trop de barrières à faire tomber. Sans même parler des voyages et même probablement l'Espagne. Et puis après, il y a, j'imagine, des raisons financières, tout l'argent que ça génère. On ne peut pas générer autant d'argent en Europe.
Il y avait eu pendant quelques temps une envie d'avoir une NBA Europe à l'époque, comme la NFL, la Ligue de football américain, a tenté de faire.
Qui a fait
ça n'a pas du tout fonctionné. Exactement.
Sur le papier, c'était quand même séduisant. Enfin, t'as envie
de croire. Ça ferait kiffer, parce qu'imagine une équipe de Real en NBA. Ils prennent tous les grands joueurs espagnols. Parce que les joueurs espagnols, ils disent, je vais jouer au Real Madrid, je vais jouer à la NBA, mais dans mon club, dans mon pays, ça serait kiffant.
Après,
il y en a moins qu'avant. Après, ils avaient parlé aussi de faire des espèces de sessions. Je veux dire, les clubs, enfin, le Real Madrid part en NBA, jouer plusieurs matchs à la suite. Je veux dire, pendant 2 mois ou 3 mois non-stop aux États-Unis, jouer un total de matchs. Après, les clubs NBA venir en Europe sur deux ou trois mois aussi et jouer.
C'est des road trips incroyables.
C'est compliqué.
Bon, après, je pense que ça, tu peux toujours trouver une solution. Tu pars à l'Est, tu fais 10 matchs d'un coup, tu reviens en Europe, t'accueilles 10 équipes, et puis tu pars à l'Ouest, tu refais un road trip, et voilà.
Pour l'instant, on va se contenter des matchs amicaux, des grandes équipes européennes contre les clubs NBA.
On jette un œil de nouveau à Bourg-en-Bresse-Chalon, et avec le retour de Chalon, qui est à moins 3 désormais, à 3 minutes 30 de la fin du troisième quart. Ils étaient à moins 11 à un moment dans ce match, Tu suis Stephen ou
oui.
Tu peux nous dire un mot?
Bah ça vaut, vous savez, tu as demandé ton mort parce qu'il sent que les Chalonnais reviennent, le petit meneur Arthur Rosenfeld perd ballon sur ballon et les Chalonnais ils vont être là les petits coquins.
si Chalon devait s'incliner, ce serait quand même incroyable. Au bout de trois journées, il y aurait plus beaucoup d'équipes invaincues quand même. Hein. Il en resterait deux, Dijon et Dijon et Villeurbanne. C'est fou. Au bout de trois journées, on en revient au championnat justement où tout le monde peut battre tout le monde.
D'autres infos, Cyril, ou c'est terminé?
D'autres infos la semaine prochaine.
Ah, bien.
C'est quoi la semaine prochaine, Cyril?
Tu connais déjà le thème. Alors, mets-toi à la bouche.
Peut-être des news sur Sylvain Francisco.
Sylvain Francisco.
Peut-être.
Bien sûr.
La polémique du
l'escroc. Sylvain Francisco.
Dis-moi, avant de dire escroc, attends qu'on déroule.
Peut-être une interview exclusive de Sylvain.
Magnifique, Sylvain Francisco, qui nous expliquera qu'il veut jouer en NBA, au Real Madrid, peut-être.
Ben, peut-être.
Voilà.
Tu vois, ça bouclerait la boucle. C'est l'heure de l'after. Nicolas Villas est là. Et en pleine concentration. Voilà, il est impressionnant.
Attention, il va crier.
Salut, ça va, les mecs?
Ça va, Nico?
Salut, Nicolas.
C'est quoi le programme de l'after? Si ton micro s'allume un jour.
Ça fonctionne. 1, 2, 1, 2.
Non, bon, ça fonctionne pas.
Oh là là!
C'est pas...
Il est là, c'est bon. Là, faut que je crie parce que ça fonctionne pas.
Oui, je te dis, Nico, faut crier.
Voilà, faut crier. Bah écoute, le programme de l'after, avis tranché parce que c'est lundi, drôle de dames qui seront là. Demain, il y a quoi sur RMC Sport?
Ligue des Champions.
Mais il y en a un qui suit. Ligue des Champions. Et c'est pas toi, Stephen. Toi, t'as gratté. On vous attend avec Pierre Ducrot et Daniel Riolo, 32-16, sur l'application Direct Studio. Et on remercie Quentin, bien sûr.
Bon, bien sûr,
pour le jingle.
Merci,
jingle
Quentin.
Magnifique.
Merci.
On le repassera la semaine prochaine.
Allez, à tout
David,
de suite.
Fred, Stephen, à la semaine prochaine. Buzzer Time, c'est fini pour ce soir. Tout de suite, c'est l'after. Le foot avec Nicolas Villas.
RMC, 21h-22h, Buzzer Time.